Bien, alors me présenter, bon, voilà, c'est déjà fait, hein, simplement, effectivement, le titre de monseigneur, c'est parce qu'un jour, j'ai reçu un diplôme que m'a donné André XXIII, sans me dire un mot. Il y avait marqué dessus, de la part de Benoît XVI, avait marqué que j'étais son prélat d'honneur. Prélat d'honneur, moi j'étais content, je me suis dit, enfin, prélat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais me prélasser? Eh ben pas du tout, j'ai été trompé. Alors là, je peux vous dire que j'ai été trompé. Alors voilà, donc vous savez tout maintenant à peu près sur moi. Et d'ailleurs, je me prélasse pas puisqu'aujourd'hui, je suis chargé de vous parler du médecin serviteur du malade. Alors c'est pas moi du tout qui ai choisi ce titre parce que j'avoue, je n'y avais jamais pensé avant. C'est triste, hein, parce que avoir exercé la médecine si longtemps et puis être au service du Seigneur et des frères sans avoir réfléchi à la question, c'est quand même lamentable. Donc, je vous remercie, au moins ceux qui ont organisé cette journée, de m'avoir permis d'essayer d'y réfléchir un peu avec vous. Tout d'abord, la question du médecin. Il y a quelque temps, j'étais interviewé par une animatrice de radio et puis elle me demandait qu'est-ce qu'il faut pour être un bon médecin. Alors j'avoue, j'étais un peu désarçonné par la question, donc tout à trac, j'ai répondu immédiatement, il faut aimer les gens. Ah, c'était pas du tout ce qu'elle attendait. Alors, mais pas du tout. Elle attendait autre chose, d'un peu plus consistant. J'ai dit, si c'est pour la compétence, non, la compétence, ça va de soi, mais il n'y a pas besoin seulement d'être médecin pour être compétent. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas compétent dans le domaine que vous exercez, je crois clairement qu'il faut changer de métier. Donc, c'est pas la question d'être un bon médecin. Pour être un bon médecin, il faut aimer les gens. C'est-à-dire avoir cette attitude bienveillante envers les gens en général. Parce que, si vous êtes médecin ou même si vous êtes infirmière, aide-soignante, etc., quand vous regardez la liste des gens que vous devez voir, moi j'en ai fait l'expérience, sans doute parce que je suis un grand pêcheur. Il y a des jours où je regardais la liste des rendez-vous, je disais, j'ai passé une bonne après-midi simplement en voyant les noms des gens sympathiques qui venaient me consulter. Et puis il y a d'autres après-midi où c'était, j'ai dit, qu'est-ce que je vais me faire suer. Il y a madame machin qui va me parler pendant une heure de ce qu'elle m'a déjà parlé pendant 10 ans. Voilà. Et donc vous voyez qu'il ne suffit pas effectivement de l'empathie habituelle, de la sympathie qu'on peut éprouver pour tel ou tel. Il s'agit de dépasser cela, justement, c'est-à-dire d'aimer les gens, même ceux qui, a priori, ne sont pas sympathiques ou pour lesquels on n'a aucune affinité. Être médecin, c'est vraiment être au service de tous. C'est la première réflexion qui me vient à l'esprit. La deuxième, c'est le mot de service. Est-ce que la médecine est un service? Oui, a priori, la médecine est un service. Mais le mot service, il faut faire attention parce qu'il peut être compris comme prestataire de service. Or, dans la tradition médicale française, dont nous nous honorons, bien sûr, le médecin n'est pas un prestataire de service. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que quelqu'un vienne demander quelque chose et paye pour qu'on lui donne ce qu'il demande. Depuis très très longtemps, la médecine en France, c'est une relation interpersonnelle, fondée sur deux libertés qui se rencontrent. Et ceci est écrit dans notre code, dans votre code de déontologie, c'est plus tout à fait le mien, maintenant j'ai passé à un autre code de déontologie. L'article 5 dit effectivement, demande l'indépendance du médecin, et l'article 6, le libre choix du malade. Et donc, vous voyez bien qu'il y a bien une rencontre choisie entre deux personnes, et que c'est cette relation personnelle qui va faire la qualité de la médecine. C'est un peu différent de la perception anglo-saxonne, où la perception est plutôt prestataire de service. Et il y a bien le mot service dedans. C'est-à-dire que si quelqu'un veut vous demander quelque chose, il n'y a pas de raison de lui refuser, tout simplement. Alors, il paye en regard, évidemment, mais il le demande. Donc, c'est sa liberté qui s'exprime, son autonomie, c'est-à-dire qu'il se donne à lui-même sa propre loi, et vous n'avez pas à interférer là-dedans. Or, chez nous, ce n'est pas la tradition. Et ça me paraît important de réfléchir quelle médecine nous sommes en train de programmer, parce qu'on voit quand même que nous nous sommes un peu envahis de plus en plus par cette tradition anglo-saxonne où les médecins, les infirmières, les sages-femmes deviennent des prestataires de service, c'est-à-dire qu'ils doivent répondre à une demande qu'on leur fait sans qu'ils puissent exprimer eux-mêmes leur façon de voir. Il y a encore, bien sûr, heureusement, toujours dans ce code de déontologie, la possibilité d'une objection de conscience. Je crois que c'est l'article 18 du code de déontologie. J'ai dû me battre pour ça il n'y a pas longtemps, parce que vous savez que Mme McCafferty avait fait, dans la Commission européenne des droits de l'homme, la possibilité de faire sauter, justement, la possibilité de l'objection de conscience par rapport à l'euthanasie, par rapport à l'avortement, etc. J'ai été invité un jour, huit jours avant, par les députés pour leur parler des Roms. C'est toujours un peu les mêmes sujets. Et puis de la bioéthique, ce que je n'ai pas manqué de faire, bien sûr, mais j'ai dit, attendez, j'ai une troisième chose à vous parler. Et j'ai parlé de cette objection de conscience en leur disant que, l'objection de conscience faisait partie, effectivement, de l'exercice de la médecine. Deuxièmement, elle était issue aussi du principe de Nuremberg. Le principe de Nuremberg, c'est celui qui a été, c'est un principe universel du droit, maintenant, depuis le deuxième procès de Nuremberg fait aux médecins nazis.